choix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Luc, on parlait de Puigdemont, le président catalan en exil, oui. Là. Puis qui a essayé de s'en venir au Canada. Puis là, on a fait tout un scandale parce que le méchant Trudeau a empêché l'indépendantiste de venir parler aux indépendantistes québécois. Pis finalement, on découvre que c'est vrai, que c'est juste un fonctionnaire qui a dit non. En fait, le tata, au lieu de remplir un formulaire en ligne directement sur un site du gouvernement canadien... Pour 7 piastres, il s'est fait arnaquer.
Par des petits...
Raconte-le, écoute, c'est incroyable.
Ben, le gars, tu sais, il faut, ça te prend ce qu'on appelle une autorisation de voyage électronique maintenant, si tu viens d'Europe, la plupart des pays d'Europe. Alors, pour aller chercher ça, tu vas sur un site web du gouvernement canadien, puis t'as 3-4 questions à remplir, puis t'obtiens ton AVE. Là. Et lui, au lieu d'aller sur le site en question, il est allé sur le site de petits escrocs qui vendent la même chose, mais à 93 piastres. Il agisse comme intermédiaire. Et là, ben, ça s'est trouvé à faire un vice de forme, et ça a été tout simplement rejeté sans aucune considération politique.
C'est-à-dire qu'ils ont quand même rempli le formulaire, mais pas dans les délais, pas de façon complète. Le fonctionnaire du fédéral a dit « Pourriez-vous nous donner ces informations-là supplémentaires? » Ils n'ont pas répondu. Fait qu'ils ont dit, t'as pas ta permission de voler, mon homme.
Ça rend d'autant plus amusant toute cette espèce de d'enthousiasme puéril que la classe nationaliste québécoise entretient pour le leader catalan, qui là-bas est pas exactement très respecté, soit dit en passant. L'Espagne est un pays que je connais assez bien, j'y ai vécu. C'est pas là. On n'est pas ici devant un grand chef charismatique qui est en train de libérer son peuple de ses chaînes. On est en face d'un petit carriériste. C'est un gars qui a fait deux choses dans la vie. Il a été journaliste dans des petits médias locaux et régionaux de la Catalogne, puis il a fait de la politique. C'est tout ce qu'il a jamais fait. C'était un carriériste de la politique. Puis un moment donné, il s'est pris pour le grand sauveur de son peuple, parce que les gens qui pensent, vu d'ici, que la Catalogne, c'est très vastement majoritaire en faveur de l'indépendance. C'est faux, là. Ce n'est pas vrai. Et ça, il n'y a pas beaucoup de comparaisons.
Ils ont quand même eu un référendum, non?
Oui, mais le taux de participation au référendum est à peu près 45 %. C'est vrai que les chiffres étaient forts, mais ça veut dire que la gang de nationalistes sont sortis fort, fort, fort. Puis les autres sont restés chez eux parce qu'ils se sont dit « ça sert à rien, tu parles d'une blague ». Et tu sais, parce qu'il faut comprendre une chose quand on parle de la Catalogne. Ici, là, au Canada, là, les récriminations du Québec tenaient au fait que, essentiellement, c'est le reste du pays qui bénéficiait de tout ce que ce pays avait à offrir, et plus particulièrement l'Ontario, puis nous autres, on était des laissés pour compte. Là-bas, c'est le contraire. La Catalogne, la Catalogne, c'est le moteur économique de l'Espagne.
Oui.
De loin, là, ce sont de loin les plus riches. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Ils veulent pas se séparer parce qu'ils sont laissés pour compte. Ils veulent se séparer parce qu'ils veulent plus participer à la forme espagnole, parce que c'est une forme espagnole, de péréquation. Okay. Ils disaient, écoute, c'est à nous autres cet argent-là. On va garder ça ici. Alors, le tata, il se promène de place en place. Il sait pas à quelle place il va émettre un mandat d'arrestation contre lui. Il s'en vient au Canada puis il se fait arnaquer. Oh boy, quelle envergure, n'est-ce pas?
Luc, il y a un article qui m'a accroché aujourd'hui de Francis Vaille dans la presse,
bon, hein?
Où il se questionne sur les cliniques privées. Actuellement, on a un certain nombre de Québécois qui sont opérés. D'ailleurs, bientôt, il va y ouvrir un bloc opératoire à Québec privé. Un bloc opératoire privé à Québec bientôt.
Et il y en a trois dans la région de Montréal.
Quand le gouvernement, quand les hôpitaux sont débordés, notamment pour des opérations du genou, de la hanche ou des cataractes, on envoie le patient au privé.
Au privé?
Le gouvernement
ça coûte
donne,
rien. Oui,
le
ça.
Gouvernement donne 460 $ à la clinique privée, plus 10 % pour le profit. Donc, il y a 46...
Et le médecin charge ses honoraires normales, puis c'est ça.
Et donc, pour 1 000 $ on fait une opération de la cataracte.
C'est ça. Et l'expérience pilote dans la région de Montréal a été extrêmement concluante, je veux dire. Par exemple, tu lis ça, là, puis tu te dis, tiens, c'est donc pas compliqué. Une des raisons qui rend ces cliniques privées-là si efficaces, c'est qu'ils respectent les horaires. Tu parles d'une drôle de notion. Ils disent qu'ils t'opèrent à 8 heures le matin. À 8 heures le matin, ils t'opèrent. Puis ils disent à midi et demi, ils t'opère. Tu comprends? C'est nous autres, on est là, on se demande comment ça se fait, les files d'attente, tout ça, badadadada.
Tandis que toi, ils te mettent à jeun à partir de minuit, puis ils t'opèrent à 3 heures de l'après-midi parce qu'ils pensaient que ce serait le matin, puis finalement, c'est l'après-midi.
Ouais, parce que t'as été déplacé, parce que je sais pas quoi, parce que y a une pénurie de personnel, parce que tu n'importe quoi. Là. Ça m'amène à l'argument de fond que les gens veulent pas comprendre. Moi, je suis un de ceux qui dit pour que notre système de santé devienne plus efficace, il faut impliquer davantage le privé. Puis là, les gens disent, ah oui, Luc Lavoie, il pense qu'on veut un système à l'américaine où il y a des gens qui peuvent mourir parce qu'ils peuvent pas être soignés. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de exactement ce qui est en train de se passer. Tu mets des cliniques privées qui sont spécialisées dans ce que tu viens de dire, là, cataracte, les opérations aux genoux, aux hanches, tout ça. Ils peuvent avoir d'autres spécialisations aussi. Puis ça te donne deux choses. Plus d'efficacité, probablement des coûts inférieurs en bout de ligne pour les payeurs de taxes. Et surtout, et c'est là que les syndicats montent aux barricades, un comparable. Yes. Si t'as pas de comparable dans n'importe quel domaine d'activité, si t'as pas de comparable, tu sauras jamais si t'es vraiment efficace, inefficace, totalement inefficace, puis il y aura jamais d'émulation qui va te forcer à t'améliorer. Ouais. Tu comprends?
Mais une des difficultés, c'est qu'ils arrivent pas à établir combien ça coûte une opération, par exemple, de la cataracte à l'hôpital, parce que là, l'immobilisation, on la divise comment?
Les coûts fixes, puis les ci, puis les ça, puis toutes les niaiseries habituelles qui font que ce régime-là a besoin d'un choc électrique, puis le choc électrique... Moi, j'aime beaucoup citer le cas de la Suède. La Suède, la patrie de la social-démocratie, ce qu'on veut tous, on aspire tous à la Suède, enfin, dans nos rêves, là. Mais la Suède, ils ont évidemment un système universel d'assurance maladie, comme nous, mais le plus gros hôpital de Stockholm, c'est un hôpital privé.
Ouais,
ils
ont 10 % de profit. Ils sont plus efficaces que le public.
Considérablement. Et ça a donné des résultats assez fantastiques. D'abord, le privé a tout intérêt à rester immensément efficace au plan technologique, par exemple, parce que c'est comme ça qu'ils vont continuer à survivre. Le privé a tout intérêt à revoir constamment ses processus de gestion des ressources humaines, parce que ça aussi, il en va de leur survie. Tandis que le public, ben, ça dépend du gars de la CSN, puis de leur représentant sur place, puis du temps supplémentaire obligatoire, puis de ci, puis de ça. Ça ne finit jamais. C'est un monstre à gérer.
D'un autre côté, dans le cas des cliniques privées au Québec, là, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes est un peu inquiète parce qu'elle dit là, les blocs opératoires privés, ils vont prendre le personnel qui travaille dans les blocs opératoires publics, ils vont les amener au privé. Les infirmières vont être contentes d'aller là parce qu'ils n'ont pas d'horaire de soir, ils n'ont pas d'horaire de fin de semaine. Mmh. On va perdre de l'expertise au public.
Oui. D'abord, je me permets d'avoir certains doutes là-dessus. Deuxièmement, oui, moi j'ai déjà eu une intervention chirurgicale de jour, comme on appelle, dans une des trois fameuses cliniques dont on parle, là, celle qui s'appelle Rockland MD. Je peux te dire une chose, là. T'arrives là, c'est d'une propreté impeccable. Pas luxueux, mais clean, clean, clean. Les gens, le personnel infirmier, la personne qui t'accueille, tout ça, sont tous super bien habillés, là. Ils sont pas en running shoes, comme on voit dans notre système public, là, avec des affaires tout délabrées, puis des bons, tout ça. Ils sont tous parfaitement bien mis. Troisièmement, quand tu leur parles, je me souviens d'avoir parlé à deux des infirmières, elles étaient dans le public. Puis à un moment donné, ils sont allées vers le privé. Puis c'est pas parce que ça paye plus, ça paye essentiellement la même chose. Puis en plus, ils perdent au change parce que dans le privé, ils n'ont pas ces fonds de retraite absolument incroyables que seul le secteur public peut offrir. Alors, ils laissent ça un peu sur la table, puis ils laissent un peu de normatif sur la table, d'espèces de congés de type, ainsi de suite. Mais elle me disait, on est tellement heureuse depuis qu'on est là. On n'est pas pris dans toutes ces cochonneries. Puis le docteur Franqueur, bon, elle n'est pas présidente du syndicat des infirmières, mais elle est quand même présidente d'un syndicat de médecins spécialistes. Quoi qu'il en soit, je veux dire, à un moment donné, quelqu'un qui va devoir se réveiller, puis ça m'a l'air impossible. Je sais pas, Myriam, je pense que c'est impossible. On dirait qu'il y a rien à faire pour informer ça, cette affaire-là. Gestion des ressources humaines profondément déficientes, gestion des approvisionnements, gestion des immeubles, toutes les formes de gestion, hein, qui doivent concourir à faire de cela un régime qui nous sert bien et pour lequel on paye les yeux de la tête. Non, il n'y a rien qui marche. Rien.
Tu sais, le gouvernement prévoit faire des maisons des aînés, là?
Oui,
en
oui.
En fait, des centres d'écueil, comme disait Clémence Desrochers, qui ont un peu plus d'allure, là. Actuellement, pour garder quelqu'un en CHSLD, ça coûte 6 300 par mois. C'est ce que ça coûte au système, OK? Il y a une partie de ce 6 300 qui est remboursée par le patient lui-même, là, dépendant de ses revenus. On y prend une partie de ses revenus pour compenser ça. Il y a actuellement une clinique, un CHSLD privé de haut niveau dédié aux personnes atteintes d'Alzheimer qui a ouvert à Québec. Ça coûte 4 500 par mois.
Tu vois?
Autrement dit, le public paye plus cher pour maintenir une personne atteinte d'Alzheimer dans un CHSLD inadéquat que ce qu'il paierait s'il confiait cette même personne au privé.
Tu vois? Et tu vois, tu entends toujours cette même chanson. Par exemple, on vient de vivre le drame de Granby. Bon, je le savais qu'on allait arriver là, ça serait pas long, mais on y viendrait. C'est quoi le problème? Manque de ressources.
C'est ça.
Je suis pas sûr de ça, moi. Je pense qu'il y a un problème de gestion dans tout le secteur public, et particulièrement dans la santé, parce que c'est le plus gros des morceaux, puis le plus complexe à gérer. On est incapable de gérer ça. On n'arrive pas. Il faut qu'on crée des poches de concurrence, comme ils viennent de faire les cliniques privées, puis il faut qu'on le fasse sur une bien plus grande échelle. Puis je trouve que l'idée qu'ils ont eue à Stockholm de construire un hôpital privé, un à Québec, puis un à Montréal, on va voir ce que ça va donner comme résultat, puis ça va être couvert par le public de toute façon. Alors, c'est le temps là, qu'on se réveille, puis qu'on décroche des dogmes, puis des babelles qui nous ont été rentrées dans la tête, là. C'est fini, là. Ça marche pas, ce système-là. Il y a des gens compétents, des médecins compétents, des infirmières compétentes, tout ça, dans un système qui est, comprends-tu, tellement merdique qu'on n'est pas capable de
faire
quoi que
ce soit. Tout le monde est compétent et l'ensemble est inefficace.
Et voilà. C'est ça que ça donne, la mauvaise gestion. C'est triste au possible, mais c'est ça. Réveillons-nous.
Merci, Luc.
Bon week-end.
Bonne fin de semaine. Bye.
Toi, demain.